Orange, cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Imaginons un instant le scénario suivant. On se réveille un matin, on navigue sur le portail en ligne des impôts ou peut-être sur la plateforme du service civique pour une démarche hyper banale.
Le genre de truc qu'on fait tous les jours, quoi.
Exactement. Et là, au lieu de l'interface habituelle, ou même au lieu d'une demande de rançon classique avec le compte à rebours rouge qui clignote, on tombe sur un manifeste.
Ah oui, le fameux message poétique.
Voilà, un texte super bien écrit. L'attaquant remercie presque le citoyen pour sa patience. Le message explique en gros que l'État a laissé nos données personnelles complètement à l'abandon. Et ça se termine par une promesse vraiment déroutante du genre « Nous ne sommes pas là pour détruire vos vies, mais pour vous sauver de la négligence de vos propres institutions. »
C'est fou parce que c'est une inversion totale des codes de la cybercriminalité classique. L'attaquant, en fait, il se présente plus du tout comme un braqueur de banque numérique.
Non, il joue au justicier.
C'est ça. Il prend la posture du lanceur d'alerte. Et le malaise que ça génère, ce mélange bizarre de soulagement de ne pas être racketté, mais en même temps de colère envers l'institution qui devait nous protéger, c'est pas un effet secondaire, c'est carrément l'objectif principal de l'attaque.
Et c'est exactement ce basculement qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette analyse. L'idée que la faille la plus critique d'un système, c'est plus forcément dans les lignes de code, mais dans l'esprit des gens. Avant de commencer, je dois lire notre présentation officielle. Cette exploration en profondeur est présentée par le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Leur approche combine des techniques OSINT et des preuves UMINT, telles que des enquêtes sur les activités cybernétiques, incluant une analyse émotionnelle, cognitive, du renseignement et géopolitique, des influences des cybermenaces.
Et c'est vraiment le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, cette approche hybride ?
Tout à fait, et je précise aussi pour ceux qui nous écoutent que toutes les informations qu'on va aborder sont le fruit d'enquêtes OSINT.
Donc de l'open source intelligence.
Voilà, des sources ouvertes, exclusivement cybernétiques. Les données ont été corrélées, validées et surtout qualifiées de sources de confiance. Et c'est important de le dire, on adopte une perspective strictement cybernétique avec une neutralité absolue.
Ouais, c'est crucial de le rappeler.
On ne soutient aucun parti pris politique ou idéologique ici. On rapporte simplement les opinions du groupe pour les analyser cliniquement, quoi.
Absolument. Et l'intérêt de cette analyse émotionnelle et cognitive qu'on utilise, c'est de pas juste faire un inventaire ennuyeux de serveurs piratés. On veut décoder la psychologie de la menace.
Comprendre ce qui se passe dans leur tête.
Exactement. Quelles sont leurs motivations? Quels biais cognitifs ils exploitent? En fait, comment ils arrivent à pirater, non pas des machines, mais l'esprit humain?
Et pour illustrer ça, on a le cas d'école parfait. L'ascension fulgurante d'un groupe activiste qui s'appelle Lunarisec.
Ah, Lunarisec, ouais.
Ils l'ont émergé entre la fin 2025 et le début 2026. Et ce qui frappe direct, c'est leurs origines affichées. Ils revendiquent un nationalisme algérien très fort.
On voit drapeau algérien partout sur leurs canaux Telegram ou sur X.
Partout. Mais d'un autre côté, leurs cibles sont massivement françaises. Et ce qui est dingue, c'est le grand écart entre les cibles. Ils tapent sur l'enseignement supérieur, genre les universités de Toulouse, de Bourgogne, Aix-Marseille. Ensuite, sur des services gouvernementaux comme servicescivique.gouv.fr ou impots.gouv.fr. Puis le secteur juridique avec digitalavocat.fr. Et d'un coup, bam, la défense avec MBDA Systems.
C'est un panel très large, oui. Sans parler des débordements ponctuels à l'international.
Oui, au Mexique, en Inde, en Israël. Mais la France reste vraiment la cible principale. Du coup, moi, je me demande comment un seul groupe peut naviguer entre une université de province et un géant de la défense européenne. Les sources parlent de profilage SIGINT. C'est quoi exactement?
Alors, le SIGINT, traditionnellement, c'est le renseignement d'origine électromagnétique. Mais ici, dans ce contexte civil, c'est l'interception de signaux numériques à très grande échelle. En fait, Lunarisec, ils n'embêtent pas à créer des malwares hyper complexes ou des 0D.
Donc ils font pas du sur-mesure pour chaque cible?
Pas du tout. Ils aspirent massivement l'empreinte numérique d'un secteur entier pour chercher des signaux faibles.
C'est-à-dire?
Ils scannent l'Internet à la recherche d'API mal configurées, de bases de données explosées au grand jour.
Le rapport mentionnait des instances supabases, non?
Supabases, c'est un classique. Ou alors des vulnérabilités basiques aux injections SQL, ce qui leur permet de faire des SQL dumps, donc d'aspirer toute la base. Leur force, c'est vraiment la reconnaissance de ces erreurs humaines plus que la destruction technique.
Pour vulgariser un peu, c'est comme s'ils n'étaient pas en train de forger des clés maîtresses ultra sophistiquées pour forcer des coffres forts. Mais plutôt, ils se promènent dans le paysage numérique, ils scannent tous les bâtiments pour voir qui a laissé une fenêtre entrouverte.
C'est exactement ça.
Et s'ils en trouvent une, ils rentrent pas discrètement. Ils prennent un mégaphone pour l'annoncer au monde entier.
Ouais, et c'est ce mégaphone virtuel qui est leur véritable arme de destruction massive. C'est là qu'on rentre dans la manipulation cognitive. L'impact psychologique de Lunaris Sec dépasse de très loin leurs compétences techniques réelles.
D'accord, mais comment ils font pour avoir autant d'écho ?
En utilisant des tactiques d'influence très précises. Par exemple, le hooking, ou l'accroche. Ils créent des alliances de façade avec d'autres groupes genre BD Anonymous, Snow Sec ou le 404 Crew.
Attendez, je vous arrête là. En lisant ça, cette liste d'alliances, on a l'impression d'avoir affaire à des génies du mal, à une armée de l'ombre géante. Est-ce qu'on leur donne pas un peu trop de crédit ?
Comment ça ?
Est-ce que c'est pas juste un enfumage théâtral complet, une manière de masquer le fait qu'ils font des attaques techniquement hyper basiques ?
Alors oui, le côté théâtral est indéniable, mais il faut comprendre que dans la guerre de l'information, l'illusion de la puissance est tout aussi dangereuse que la puissance elle-même.
Ah ouais, carrément.
Parce que quand on regarde les publications scientifiques sur la propagande, on voit qu'ils appliquent des concepts documentés depuis des décennies. Prenez les travaux de Robert Cialdini, en 1984, sur la réciprocité et l'autorité.
Oui, les principes de persuasion.
Exactement. Lunaris Sec utilise une tactique de responsible disclosure, donc de divulgation responsable.
Comme ils ont fait pour le site des impôts ou les avocats.
Voilà. En gros, ils disent « on a trouvé une faille, mais on vous prévient au lieu de tout détruire ». Ça leur donne une image de pirate éthique. Le cerveau humain ressent une dette de réciprocité. Ça renforce leur légitimité auprès du public.
C'est pervers, parce qu'ils viennent quand même de s'introduire illégalement dans un système.
C'est là qu'intervient le concept de Daniel Kahneman, de 2011, sur le cadrage cognitif, le fameux « cognitive framing ».
D'accord, l'idée de changer la perspective d'une situation.
C'est ça. Ils encadrent leurs attaques non pas comme des actes criminels, mais comme une quête de justice face à la négligence de l'État français. Ils inversent les rôles. L'État devient le coupable négligent et eux, les sauveurs.
Les fameux justiciers dont on parlait au début. Mais leur rapport va encore plus loin. J'ai vu des mentions de programmation neurolinguistique, la PNL, de Bandler et Grinder.
Oui, l'analyse de leur manifeste est fascinante sur ce point.
Mais comment on utilise de la PNL dans un message de piratage ? J'ai du mal à visualiser.
Ils utilisent des schémas de pacing and leading, c'est-à-dire synchroniser puis bider. Ils intègrent des commandes directes dans leur texte. Il y a une phrase qui revient souvent dans leur manifeste, je cite « Votre cœur bat pour une raison, Lunaris Sec est sur Terre pour une raison ».
Waouh, ça fait très sectaire comme discours.
Ouais, le but c'est de forger un rapport quasi-hypnotique. Tu lis une vérité biologique incontestable, ton cœur bat, tu l'acceptes et boum, ils associent ça à leur existence. C'est redoutable pour endoctriner et recruter.
Et ça marche particulièrement bien avec leur idéologie, j'imagine, parce qu'ils mélangent un peu tout, non ?
Totalement. C'est ce que R. Thoreau appelait la radicalisation symbiotique en 2015. Ils fusionnent leurs revendications purement techniques avec une idéologie très lourde qui mêle anticolonialisme et solidarité islamique.
Oui, le rapport souligne qu'ils font souvent référence à la Palestine ou qu'ils utilisent le terme de djihad, mais pour justifier leurs actes cyber.
C'est ça, le djihad pour la justice. Ça donne une dimension sacrée, presque religieuse, à une simple exploitation de failles SQL.
Ça fait froid dans le dos quand on y pense, surtout quand on sait que leur modèle économique, entre guillemets, repose sur cette manipulation psychologique du public européen et français en particulier. Du coup, ça nous amène à la question de l'avenir. À quoi on doit s'attendre ?
Les analystes ont dégagé deux grandes hypothèses. La première, c'est la plus probable. Elle est baptisée « Vulner Harvest », donc la moisson de vulnérabilité.
Ça sonne déjà pas très bien.
C'est un scénario de harcèlement continu, en fait. Lunaris Sec maintiendrait une cadence de divulgation quasi hebdomadaire.
Toujours en ciblant la France ?
La France d'abord, oui. Le secteur public, le secteur privé intermédiaire, mais avec des débordements progressifs sur toute l'Union européenne.
Et les conséquences d'un tel harcèlement, c'est quoi ? Juste du bruit médiatique ?
Bien pire. D'abord, un épuisement total des équipes de sécurité informatique. Ensuite, des coûts réglementaires et légaux qui explosent pour les entreprises touchées. Mais le plus grave, psychologiquement, c'est l'installation d'une fatigue de l'activisme.
C'est-à-dire que les gens s'y habituent ?
Exactement. Si toutes les semaines on vous dit que vos données ont fuité, ça normalise la vulnérabilité des institutions, le citoyen perd définitivement confiance.
C'est l'érosion lente de la confiance. Et ça, c'est juste l'hypothèse la plus probable. Mais il y a un deuxième scénario, celui qui est qualifié de plus dangereux, le fameux scénario Lunaris Eclipse.
Ouais, là on est sur le scénario catastrophe. On imagine une attaque coordonnée, impliquant toutes leurs alliances, de manière sérieuse cette fois, et qui viserait la chaîne d'approvisionnement, la supply chain.
Donc, au lieu d'attaquer les cibles une par une, on empoisonne la source.
C'est ça. Imaginez qu'ils compromettent un fournisseur de logiciels très utilisé dans le secteur juridique ou dans la défense européenne.
Comme l'affaire SolarWinds à quelques années, par exemple.
Tout à fait. Mais avec une exfiltration furtive, massive. Ils récupèrent des bases de données citoyennes et militaires sensibles en silence. Et ensuite, au lieu de tout publier d'un coup, ils organisent des fuites massives, mais chronométrées.
Ah, la torture psychologique !
Voilà. L'objectif n'est plus de gêner, mais de créer une paranoïa généralisée. Une crise de confiance institutionnelle tellement profonde que les dommages économiques se chiffreraient en milliards d'euros.
C'est terrifiant parce qu'on se rend compte que la sophistication technique de l'attaque initiale n'a même pas besoin d'être énorme si la stratégie psychologique derrière est bien ficelée.
C'est tout le paradoxe de la menace actuelle, ouais.
Pour résumer un peu tout ça, l'UnariSec, c'est vraiment le parfait exemple de la menace hybride moderne. Une technicité finalement modérée, mais qui est totalement compensée par une maîtrise redoutable du profilage SIGINT et de l'ingénierie psychologique et cognitive.
Et géopolitique, il faut pas l'oublier.
Oui, complètement. Et ça me laisse sur une réflexion finale que je voudrais partager avec ceux qui nous écoutent. Si l'activisme évolue pour devenir avant tout une guerre cognitive, ça soulève une question vertigineuse.
Je vous écoute.
C'est très facile, ou du moins c'est faisable, de mettre à jour un serveur ou de corriger une base de données. Mais comment nos institutions peuvent-elles déployer un correctif de sécurité lorsque la vulnérabilité se trouve directement dans l'esprit du public ? Ah, ça, c'est le grand défi de la prochaine décennie. Merci beaucoup pour cet éclairage fascinant. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.